Bonsoir et bienvenue avec nous sur Odo Radio. Désolé pour ces quelques minutes de retard. On se retrouve donc pour notre émission mensuelle Questions d'actualité, réalisée en partenariat avec l'Écho des Collines, représentée ce soir par Coraline Bertrand. Bonsoir Coraline.
Bonsoir.
La journaliste indépendante Aïcha Chapla. Bonsoir à vous Aïcha.
Bonsoir Sandrine, Coraline, bonsoir Johan, bonsoir à tous.
Et voilà, justement, Johan Denechaud d'Aki.fr. Bonsoir à toi, Johan.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Et c'est à toi que je laisse l'honneur d'animer cette émission, oui. Parce que c'est donc Aki.fr, par l'intermédiaire de Johan, qui a donc travaillé sur la thématique de ce mois-ci. Je te laisse l'annoncer, cette thématique.
Ce sera le thème des aidants. Donc c'est un sujet qui est assez vaste et qui touche aujourd'hui 11 millions de personnes en France. Et au niveau départemental, c'est 300 000 personnes. Il y a des études qui ont été menées au niveau national qui montrent que d'ici 2030, ça représentera un quart des actifs sera aidant du fait de vieillissement de la population. Le cadre législatif autour des aidants, il est récent et face à l'ampleur qui est en train de prendre la situation, qui plus est aujourd'hui en pleine crise sanitaire, de plus en plus de choses sont mises en place tant au niveau politique qu'au niveau associatif, au travers par exemple de l'émergence de cafés des aidants, donc des espaces de rencontres et d'informations animés par un travailleur social et un psychologue. En Gironde, il en existe 4, à Gradignan, Villeneuve d'Ornon, Mérignac et Saint-Loubès. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres démarches aussi qui existent du côté notamment d'une entreprise et de la politique. Donc pour en parler avec nous ce soir, Séverine Zakoyan, qui est cofondatrice et directrice générale de la société d'aide à la personne Ernesti. Bonsoir Séverine, si vous êtes là et si vous nous entendez.
Bonsoir.
Et bienvenue sur Odeur Radio. Merci d'avoir répondu.
Merci.
Autre invité également présent avec nous par téléphone, Sébastien Saint-Pasteur, qui est conseiller départemental de la Gironde, entre autres président de la commission handicap et inclusion. Bonsoir monsieur Saint-Pasteur.
Bonsoir à tous.
Et merci d'avoir répondu et d'être avec nous sur Odeur Radio. Troisième personne que nous entendrons ce soir, mais qui n'est pas présente avec nous pour des raisons techniques, donc Christophe Collas, qui est un aidant familial que Séverine Zakoyan a accepté de mettre en relation pour qu'il puisse témoigner avec nous. Il a accepté de répondre par téléphone, nous en entendrons trois extraits. Je vais d'abord m'adresser à vous, Séverine. Donc Ernesti, c'est une jeune entreprise que vous avez fondée avec votre frère Quentin. Concrètement, vous faites quoi ?
Alors en fait, on propose des gardes de nuit faits par des étudiants en santé, en médecine ou paramédicale. Et les étudiants se rendent au domicile de 20h à 8h pour réaliser un accompagnement. Alors ils font pas de soins ni de ménage, mais ils sont là pour réaliser une présence, finalement l'essentiel, une présence bienveillante et sécurisante.
C'est avant tout de la présence nocturne pour pallier un peu cette solitude et peut-être aussi pour permettre aux familles des personnes que vont rencontrer ces étudiants de souffler un peu, non ?
Exactement. En fait, souvent, quand on fait du maintien à domicile, quand on accompagne son parent du coup au domicile, on arrive à trouver des solutions en journée. Seulement, passé 19h30, on va dire que les services comme les auxiliaires de vie ou alors le passage infirmier, eh bien après, ça s'arrête à 19h30 et souvent les familles se retrouvent bien démunies pendant presque 12 heures de temps, de 20h à 8h, il se passe quand même presque 12 heures. Et souvent, ce sont les aidants qui s'investissent auprès de leurs parents et qui passent les nuits au domicile, donc ça devient épuisant. Et nous, on vient apporter un petit peu de répit pour que les dents puissent se reposer, parce que sans les dents, on ne peut pas faire le maintien à domicile. Donc voilà, il faut qu'ils pensent un petit peu à eux aussi. Donc c'est pour ça qu'on a créé Ernesti.
Si je comprends bien le projet aussi, il y a peut-être une petite dimension lien intergénérationnel. Je l'avais déjà échangé sur ce propos avec votre frère qui me disait que c'est aussi des étudiants qui ont des parents et des grands-parents qui ne voient pas souvent, parce qu'ils ne sont pas tous bordelais ou dans les villes où ils vont travailler. Donc il y a aussi un petit peu de ça peut-être.
Oui, tout à fait. Et puis on est ravis de voir que on a des étudiants qui ont envie de rencontrer des personnes plus âgées, voilà, d'envie de partager un moment, parce qu'effectivement ils sont pas forcément à côté de leurs grands-parents, et donc ça leur permet d'avoir un échange avec une personne un peu plus âgée et de créer du lien. Et voilà, souvent les accompagnements on les fait de manière assez pérenne, donc les familles ont le temps aussi d'établir un lien avec ces étudiants.
Vous avez évoqué le fait de permettre aux aidants de souffler. J'imagine que Sébastien Saint-Pasteur doit écouter ça avec attention dans la mesure où le département a voté cette semaine une feuille de route justement pour accompagner les aidants au niveau départemental. Vous en pensez quoi, Monsieur Saint-Pasteur ?
Alors j'écoute avec beaucoup d'attention, bien évidemment, et je salue cette initiative parce que en effet, ce qu'on appelle la garde de nuit est quelque chose qui est difficile. Il y a eu des initiatives par d'autres associations qui sont très connues, comme l'APF France Handicap, qui est une association qui est très connue dans le champ du handicap, mais qui ont eu du mal à trouver leur modèle économique. Donc je trouve très séduisant l'initiative d'Ernestie qui essaye de modéliser avec des étudiants cette aide, ce soutien, qui est en effet indispensable parce que il y a de l'épuisement chez les aidants. Il faut rappeler qu'un aidant, c'est un non-professionnel. Hein. C'est vous, c'est moi, c'est un père, c'est un fils, voire même, on peut s'éloigner de la définition légale, un voisin, un ami. Et l'aide qui est apportée par votre association, madame, elle est extrêmement précieuse. Donc c'est une vraie chance pour notre territoire de vous compter parmi nous. Alors évidemment, le département, il prend sa part, hein. Je vous en prie. Le département, il prend sa part aussi, hein, pour vous donner un chiffre, peut-être pour fixer un ordre d'idée sur le champ du handicap, puisqu'on a parlé de cette évolution de la dépendance. En 2015, lorsque j'ai pris mes fonctions, le budget du département, il était de 200 millions d'euros à peu près sur ce champ-là. Il est aujourd'hui de 250 millions. Donc on a une évolution qui est très nette, et les perspectives que vous avez esquissées dans votre introduction, elles sont justes. On a une société qui vieillit, on a une société qui aura des besoins en accompagnement qui seront de plus en plus importants. Donc c'est un sujet qui va être de plus en plus prégnant dans nos sociétés, en Gironde comme en France.
Et justement, cette feuille de route que vous avez votée lundi dernier, c'est pour accompagner tant individuellement que collectivement les aidants. Il y a de l'accompagnement financier, mais aussi de la pédagogie, de la formation, du conseil, un soutien psychologique parfois. C'est quelque chose qui est important quand même aujourd'hui pour ces personnes qui peuvent être très vite épuisées.
Le volet financier, j'en ai parlé. On pourrait parler aussi du budget par rapport à ce qu'on appelle l'autonomie sur les personnes âgées. C'est 200 millions d'euros. Donc, c'est 450 millions d'euros si on parle des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Donc, c'est un budget très important qui finance les services, qui finance les établissements, etc., etc. Mais il y a aussi des aides qui sont d'ordre psychologique pour faire face à cet épuisement, pour faire face à cet isolement. Et puis des familles qui font face aussi parfois à un parcours du combattant pour avoir accès à des aides, pour avoir accès à des dispositifs, pour avoir accès à des solutions de répit. Donc être accompagné, être formé aussi par rapport à certaines maladies, certaines pathologies, certains handicaps. On pourrait parler de l'autisme, on pourrait parler d'Alzheimer. C'est pas évident quand on voit un proche changer de cette façon-là. Donc il y a besoin de soutien, c'est ce qu'on essaye d'apporter au niveau du département à travers nos actions. Et cette feuille de route, elle est un peu... une étape où on essaye de formaliser une intention, une volonté qu'on va essayer d'amplifier dans les années à venir, évidemment.
Non, je voulais parler de la reconnaissance des aidants parce qu'en fait, au final, on ne peut pas les situer, c'est des gens de la famille. Est-ce qu'on ne peut pas leur donner un statut, c'est-à-dire une aide financière pour s'occuper de leur propre famille ?
Alors ça existe, hein. Il faut savoir que sur les deux volets principaux d'aide à la personne pour ce qu'on appelle l'aide humaine. Il y a ce qu'on appelle la prestation de compensation du handicap. Ça, c'est sur le volet personne en situation de handicap. Et il y a un autre dispositif, l'aide personnalisée à l'autonomie, où vous pouvez avoir de la rémunération des aidants familiaux. Mais c'est plafonné et c'est insuffisant. Il faut savoir, par exemple, que sur la PCH, on est sur des financements qui sont plafonnés à peu près à 900 euros par mois. Donc c'est sûr que quand vous avez à faire des arbitrages, quand vous avez une activité professionnelle et que vous devez vous arrêter pour vous occuper d'un proche, d'un fils, et que vous avez une compensation de cette nature-là, c'est sûr que les arbitrages, ils sont difficiles à opérer.
Oui, bien sûr.
Séverine, vous, là, on a beaucoup abordé la question financière. Alors, quand j'ai discuté avec Christophe Collat, il expliquait que les services d'Ernestie, comparés à ce à quoi il pouvait avoir accès, que ce soit pour des maisons de retraite ou des établissements spécialisés, étaient assez abordables. C'est un parti pris que vous avez pris aussi, enfin, que vous avez fait aussi, au-delà de vouloir décharger les aidants, de ne pas leur poser en plus une contrainte financière.
Tout à fait. Effectivement, en fait, on propose de l'emploi direct. Donc, on demande quand même à la famille de faire des choses, c'est-à-dire ils vont procéder à une déclaration CESU à la fin du mois. Donc nous, ça nous permet de baisser entre guillemets ce coût, parce qu'effectivement, quand vous faites appel à une agence traditionnelle type mandataire ou prestataire, tout de suite, ce sont des tarifs qui sont de l'ordre de 180-200 euros la nuit, alors que nous, on peut les facturer à 83 euros la nuit, tout compris, c'est-à-dire le salaire de l'étudiant, frais de service et cotisations sociales compris dans les 83 euros. Donc oui, nous notre volonté, c'est vraiment d'essayer de pouvoir faire bénéficier de gardes de nuit au plus grand nombre. Et pour cela, on essaye aussi de contacter les groupes de protection sociale pour qu'ils puissent financer certaines nuits. On vient de signer un partenariat avec la GIRC-ARCO Malakoff Humanis. Et effectivement, maintenant, quand une famille bénéficie de la GIRC-ARCO Malakoff Humanis, ils peuvent solliciter cette caisse de retraite pour pouvoir être éligible pour obtenir 5 nuits offertes. Tout le monde n'est pas éligible, mais en tout cas, ils peuvent en faire la demande. C'est un premier pas. On espère pouvoir avoir d'autres groupes qui nous suivent pour pouvoir faire bénéficier un maximum de familles.
Est-ce qu'il faut préciser quand même que vous êtes une jeune entreprise, vous avez fondé Amnesty avec votre frère en 2017,
oui.
Mais vous n'êtes pas présent qu'à Bordeaux, vous êtes sur plusieurs villes de France.
Tout à fait, on a commencé à Bordeaux. Pour la petite histoire, on a commencé alors qu'on n'était que étudiants. C'est parce que moi-même, j'ai fait des gardes de nuit au travers de notre mère qui est médecin généraliste dans la région de Bordeaux. Et avec Quentin, donc mon frère jumeau, on s'est dit il faut absolument rendre ça à une échelle un peu plus globale pour que d'autres en bénéficient. Parce que moi, en tant qu'étudiant, j'ai appris énormément à cette époque-là. Et puis les familles étaient ravies. Donc on s'est lancé. Maintenant, on fait des accompagnements donc à Paris, Bordeaux, Nantes, Rennes, Angers, Strasbourg, Lyon, Caen, et après dans le sud. Donc on a Toulouse, on a Marseille, Toulon, hier. Voilà, on se développe de plus en plus. Quand on n'a pas encore de pool d'étudiants dans une ville, parce qu'effectivement on n'est pas partout encore, et on souhaite être partout, dans le sens où on veut pouvoir accompagner des familles qui nous sollicitent un peu partout. On met à peu près 15 jours, 3 semaines à avoir un pool d'étudiants, c'est-à-dire qu'ils aient finalisé leur parcours d'inscription. Parce que chaque étudiant qui va au domicile d'un accompagné, on veut qu'il... il a suivi un parcours d'inscription où on leur demande des pièces justificatives, une petite vidéo d'une minute qu'on va envoyer à la famille, parce que c'est la famille qui va choisir l'étudiant qui va venir à son domicile. Et puis, il y a un entretien avec moi-même. Donc, on sélectionne vraiment ces étudiants avant de les proposer aux familles. Donc, on met à peu près 15 jours, 3 semaines à constituer un pool d'étudiants.
Et un pool d'étudiants, ça représente combien d'étudiants environ ?
Alors en fait, ça va dépendre du nombre de demandes. Si vous voulez, quand une famille nous sollicite, parfois elle va nous solliciter pour toutes les nuits de la semaine. Et nous, ce qui fait aussi notre force, c'est qu'on va essayer de travailler vraiment en équipe d'étudiants autour d'une même famille. Par exemple, toutes les nuits de la semaine, on va peut-être proposer 4 étudiants ou 5 étudiants. Et ces étudiants, alors ça sera... tout le temps la même équipe, mais effectivement tous les soirs pas le même étudiant. Et c'est une force parce qu'aujourd'hui, surtout en situation où il y a le Covid, où les gens tombent malades, quand un étudiant ne peut pas faire l'accompagnement, il a d'autres membres de son équipe qui le remplacent. Donc c'est vraiment une force de fonctionner en équipe d'étudiants.
Séverine et Sébastien, je voulais vous faire réagir sur les propos justement de Christophe Collat avec un premier extrait de notre entretien téléphonique. Donc, il a perdu son père récemment et il s'occupe maintenant de sa mère qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il nous raconte un petit peu son expérience. Il a aussi abordé la crise sanitaire et le confinement qui est aussi venu changer un petit peu la situation tant pour lui que pour les aidants de manière générale.
Mon expérience, quelque part, elle a quand même été un peu guidée par une première expérience dans ce domaine qui était l'accompagnement de mon père. C'est vrai que sur le plan du ressenti, j'essaye de me protéger des erreurs que j'ai pu faire la première fois. Même si, encore une fois, c'est pas évident parce que le contenu est absolument pas le même. Moi, mon père est parti en un mois, ça a donc été été un accompagnement extrêmement, à la fois bref, mais extrêmement intense, avec des choses, voilà, qui sont vécues et qu'on espère d'ailleurs pas revivre, hein, quand c'est aussi concentré dans le temps et dans le contenu. Mais en tout cas, ce que je me suis dit, s'il vous plaît, ben, finalement, en tant qu'aidant, je me suis perdu dans un accompagnement de ma carrière. C'est-à-dire qu'en fait, en tant qu'aidant, bah, on a la tête dans le guidon parce que on essaye de pourvoir à tous les actes, hein, en particulier des actes de la vie quotidienne, mais ça peut même aller au-delà, hein, pendant le confinement, on en parlait tout à l'heure, mais finalement, effectivement, je vous disais, le confinement, c'est quelque chose d'accidentel, bon, c'est pas le plus important, mais finalement, le confinement a quand même un peu modifié le contenu de la mission des aidants, parce que, bah, en tant qu'aidant, moi, je sais que j'ai été amené à faire des choses que je n'aurais pas fait normalement. Et des pénuries personnelles, tout simplement, et de disponibilité. Donc, en fait, pour revenir à mon propos, donc par rapport à ce rôle d'aidant, c'est vrai que fort de ma première expérience, c'est vrai qu'à l'issue de cette première expérience, je me disais, mon rôle a été trop matériel, c'est-à-dire que j'ai eu la tête dans le guidon pour faire un maximum de choses, et finalement, j'ai perdu de vue un autre aspect essentiel, hein, de cet accompagnement de la personne, bah, c'est effectivement prendre le temps se poser pour avoir des discussions sur des sujets essentiels. Vraiment, je l'ai beaucoup regretté la première fois.
Vous aviez besoin d'extérioriser, justement, au-delà de...
Ce n'était pas d'extérioriser mon rôle d'aidant. Encore une fois, moi, en tant qu'aidant, je ne suis pas dans la plainte. Alors, il m'est arrivé, hein, et ça, c'était le cas, effectivement, pendant le confinement, parce que ce rôle était vraiment parfois excessif. Puisque, encore une fois, il y a très peu d'auxiliaires, de tiers, hein, sur lesquels s'appuyer pour faire ce travail, hein, et puis, de toute façon, les tiers étaient occupés avec d'autres préoccupations, hein, quand on connaît la pénurie qu'il y a eu au niveau des personnels soignants. Moi, je me disais, je vais pas aller enquiquiner une aide-soignante, une infirmière, pour s'occuper de ma mère. Il y a des gens qui ont besoin de plus qu'elle. En tout cas, moi, je peux me débrouiller, en tout cas, davantage que toutes ces personnes qui étaient à l'hôpital pendant la crise du Covid.
Oui, je sais pas si ça, mais il a évoqué, notamment du fait de la crise sanitaire, une gêne, en fait, de faire appel au personnel soignant. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de vous ?
Moi, je veux bien réagir sur... d'abord, le confinement, et les médecins l'ont beaucoup exprimé, il y a beaucoup d'actes chirurgicaux ou de recours à la médecine qui ont été reportés, refusés par les personnes, justement, parce qu'ils avaient la pudeur ou, en tout cas, le sentiment qu'ils allaient déranger. Le confinement, il a quand même été un accélérateur de difficultés pour les personnes, notamment les personnes qui sont aidantes. Et nous, on a un travail qui est mené avec le collectif handicap, qui est une structure associative qui regroupe tout un tas d'acteurs qui œuvrent dans le champ du handicap. Ils ont fait une enquête auprès des familles, justement, qui ont des enfants en situation de handicap, et beaucoup ont exprimé de la lassitude parce que on ne pouvait pas avoir accès aux établissements, parce que d'avoir 24 heures sur 24 sans temps de répit parce que le confinement ne le permettait pas, une personne avec des troubles cognitifs importants à domicile, c'est effectivement épuisant. On a un problème aussi qui a été soulevé par Monsieur Collas, c'est celui de l'attractivité des métiers. Aujourd'hui, il y a dans les services d'aide à domicile, alors c'est pas le cas d'Ernesti qui est sur un modèle un peu particulier avec le recours à des étudiants, mais un vrai problème d'attractivité, c'est des métiers qui sont peu valorisés financièrement, socialement, et je crois que nous, on a versé une prime de 1000 euros au personnel soignant, au personnel qui sont dans les services d'aide à domicile et puis dans certains services qui relèvent du département. C'est une forme de reconnaissance du travail extraordinaire qu'ils réalisent. Et je crois qu'il faut aussi avoir une réflexion plus collective, quasi sociétale, sur la place qu'occupent ces personnes dans notre société. Aujourd'hui, les personnes qui s'occupent des personnes âgées dans les EHPAD, des personnes qui ont fait le choix de vivre à domicile malgré leur perte d'autonomie, c'est des personnes qui sont pas suffisamment bien vues dans notre société. Et je crois qu'il faut changer le regard aussi là-dessus. Ça permettra aussi de rendre les métiers plus attractifs et de revaloriser cette fonction de care, de prendre soin, qui est de plus en plus importante aujourd'hui. Moi, ça m'inspire cela, le témoignage de Monsieur Collas, c'est revaloriser ces métiers-là, reconnaître leur importance et puis avoir aussi dans la hiérarchie des métiers, alors j'ai rien contre les traders, hein, mais de dire que les gens qui s'occupent des autres, ils sont aussi importants que des gens qui sont peut-être dans des chiffres au niveau financier.
Alors justement, on voulait inviter un chercheur, on y a pensé hein, pour parler de cette notion de care. Peut-être parce qu'effectivement, ce Covid, c'est ce qu'il a révélé, c'est le côté positif, c'est que les personnes les plus importantes sont quand même les personnes, la bienveillance, cette notion de bienveillance, les métiers du soin qui sont très peu reconnus. Alors bien sûr, on a pensé beaucoup au personnel médical et peut-être c'est les oublier un petit peu de ce Covid, toutes ces personnes qui accompagnent les aides-soignants, les aides à domicile, les personnes en situation de handicap. Est-ce qu'elles elles ont été revalorisées et reconnues après Covid? Est-ce qu'on a changé de regard, vous pensez, sur ces métiers-là? Et comment vous avez envie, en tant qu'élu hein, au département, revaloriser ces métiers, que ce soit pas forcément que financièrement, mais socialement aussi hein?
Je crois que le confinement, il y a une prise de conscience sur la hiérarchie, entre guillemets, des métiers, où on voyait que, en gros, les logisticiens, les personnes qui font de l'aide à domicile, les personnes qui travaillent dans les services alimentaires, ils ont été en première ligne. Et eux, en fait, pendant le confinement, ils étaient sur le pont. Il y a dans les maisons de retraite, il y a des personnes qui ont passé le confinement intégralement aux côtés de leurs résidents, sans rentrer forcément chez eux, parce qu'ils avaient une conscience professionnelle aiguë et qu'ils avaient envie de les aider. Donc oui, la revalorisation, elle est aussi dans cette prise de conscience. Moi, je suis lucide hein, sur notre société où on est dans un zapping permanent et on oublie très vite en fait les sacrifices qui ont été opérés. Le fait de verser une prime, c'est un acte pas que symbolique, mais qui n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait une vraie logique en fait de revalorisation des métiers. Je parlais des évolutions budgétaires au niveau du département. On essaye de mettre les moyens. J'ai conscience que c'est peut-être insuffisant aujourd'hui. On a besoin aussi que l'État y prenne des mesures pour que, en gros, ces métiers-là, ben, on puisse avoir des rémunérations plus justes. Et la revalorisation, elle est aussi culturelle. Donc, c'est pas que les pouvoirs publics qui doivent agir, c'est aussi chacun, vos auditeurs, et puis plus largement l'ensemble de nos concitoyens, qui doivent aussi avoir conscience de cela. Je crois que ça aussi, c'est une évolution qui est souhaitable. Est-ce que ce sera le cas demain? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je l'appelle de mes voeux.
En tout cas, vous avez eu un rôle primordial pendant cette période de confinement, puisque on le rappelle pour les auditeurs qui ne le savent peut-être pas, hein, que vous avez la charge de l'aide sociale. Donc, vous avez été en première ligne pendant ce confinement. Et on a beaucoup entendu Jean-Luc Glaize. Il a été très présent dans pas mal de domaines hein, pendant cette période. Comment qu'est-ce qui ressort chez vous au département de cette période-là? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ou changer, en tout cas, maintenant, après Covid? On n'en sort pas indemne de ça?
Alors, le département a joué son rôle, le président a été très actif, mais c'est pas le seul, hein. Il y a beaucoup de communes, beaucoup de citoyens qui se sont impliqués, il y a eu beaucoup de solidarité qui s'est exprimée pendant ce confinement. Moi, j'ai assisté à des livraisons de repas auprès d'étudiants sur le domaine universitaire ou auprès de personnes qui étaient plus isolées, donc je crois que c'est un mouvement plus collectif. Ce souffle-là, je pense qu'il retombe un petit peu malgré tout, parce que le Covid, il pousse un peu à la lassitude, on a envie d'en sortir tous, je crois, même s'il faut rester extrêmement prudent et respecter toutes les consignes sanitaires. Nous, au niveau du département, ça nous a pas ouvert les yeux plus que ça, parce qu'on a conscience des difficultés sociales. Il y a, pour vous donner un ordre d'idée, une personne sur 13 qui a un droit ouvert auprès de la MDPH aujourd'hui. Vous avez un budget dédié au RSA, donc au Revenu de Solidarité Active, et à l'insertion qui est de près de 250 millions d'euros. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est la montée de la précarité demain. Oui. Donc, les besoins d'accompagnement financier qui vont être encore plus importants et de savoir si on va être en mesure de répondre à ce besoin-là qui va être colossal. Je crois que vous avez certainement lu le rapport du Secours Populaire. Il y a 40% de personnes qui étaient inconnues du Secours Populaire qui les ont fréquentées pendant le confinement. Donc, c'est des mères isolées, c'est des travailleurs pauvres, c'est des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Donc je crois qu'il va falloir qu'il y ait un effort collectif et que la solidarité soit remise un peu en haut des priorités.
Vous aviez de réagir, c'est vrai, non? J'ai cru vous entendre...
Oui, en fait, je voulais réagir à ce qu'avait dit Monsieur Collat aussi. Cette culpabilité de l'aidant à solliciter de l'aide, elle est très présente, même avant Covid, parce que effectivement, souvent quand on fait du maintien à domicile et qu'on est aidant, on devient un peu une micro-entreprise, c'est-à-dire vous gérez toute la logistique, que ça soit le portage des repas, l'auxiliaire de vie qui vient faire un peu de ménage ou faire les repas, vous devenez vraiment une micro-entreprise et vous êtes la tête dans le guidon. Et effectivement, demander de l'aide, c'est compliqué parce qu'en fait c'est flou, c'est un domaine qui est très flou, et pour rechercher de l'information, c'est pas forcément évident, voilà, de savoir un petit peu les différents services, les aides qu'on peut avoir, etc. Donc effectivement, on peut aller chercher de l'aide auprès du département, il y a des centres locaux d'information aussi, les CLIC, auprès des mairies, etc. Et moi, ce que j'ai pu voir et le vécu qu'on a eu pendant le confinement, c'est que il y a des familles qui habitaient loin de leurs parents, mais qui allaient quand même les visiter régulièrement et qu'on accompagnait déjà, qui ne pouvaient plus aller les visiter parce que soit la peur de transmettre le Covid, parce qu'effectivement les aidants, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont souvent des professionnels, donc ils maintiennent leur activité aussi, hein, mais du coup ils ont peur de visiter leurs parents pour leur transmettre. Et donc en fait la seule porte ouverte sur le monde extérieur, c'était les étudiants qui venaient, ou alors l'auxiliaire de vie qui vient la journée. Le nombre de familles qu'on a accompagnées également en journée, alors qu'on fait des accompagnements de nuit, parce que du jour au lendemain, les accueils de jour ont fermé, parce que les accueils de jour, c'est au sein d'une EHPAD, et donc les EHPAD étaient aussi en quarantaine, donc voilà. Ça a été compliqué dans le sens organisation, avec des familles qui se retrouvent très démunies parce qu'ils se retrouvent tout seuls face à cette dépendance, alors qu'ils avaient réussi à mettre des aides en place aussi. Mais effectivement, la solidarité, j'ai vu des équipes d'étudiants faire des choses extraordinaires, c'est-à-dire se relayer, transmettre de l'information à l'aidant, faire des activités avec la personne âgée, faire des FaceTime avec la personne âgée pour qu'ils puissent voir leurs parents, enfin leurs enfants. Voilà, c'était ce confinement, effectivement on en sort, je pense, bien plus fort, et je pense qu'il faut rester dans cette dynamique de se dire que les choses traditionnelles qu'on a l'habitude de voir, il faut créer autre chose, il faut recréer du lien, remettre les personnes âgées un petit peu au cœur aussi de notre société, voilà, pas chacun sa place sans lien, au contraire, remettre un peu de lien.
On aurait souhaité savoir ce que pensent ces étudiants de cette expérience. Alors vous l'avez vécu, hein. A priori, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Là,
oui, tout à fait.
Vous avez eu cette place d'étudiante aidante, voilà, sur un statut d'aidante. Et qu'est-ce que ça apporte ?
Alors, on essaye aussi d'évaluer auprès de nos étudiants, parce que là, moi, je vais vous donner mon avis subjectif.
Bien sûr.
on fait passer des questionnaires à nos... Alors, nos étudiants, on les appelle des chouettes, parce que Ernestie, c'est une race de chouettes, et nos étudiants, ce sont des veilleurs de nuit. Et du coup, nos chouettes, souvent, ce qui nous rapporte, c'est que, déjà, une connaissance du monde du maintien à domicile, qu'ils n'ont pas du tout, qu'ils n'apprennent pas du tout dans leur parcours de formation. Ce sont tous des étudiants en santé, donc médecine ou paramédicale. Donc, normalement, ils ont cette sensibilité, ils ont envie d'aller chercher du lien et puis faire une rencontre avec une personne un peu plus âgée, discuter aussi à un accompagnement que j'ai réalisé. J'avais accompagné Martine et effectivement, je sais pas, on avait parlé un petit peu politique ou mariage, et à son époque, elle me racontait comment c'était. Voilà, c'est des choses qu'on vient chercher humainement, parce que quand vous êtes étudiant, vous côtoyez des patients, vous les voyez peut-être, je sais pas moi, quelques minutes dans la journée, c'est un patient, vous réglez vous lui apportez une solution, tac, c'est fait, vous sortez de la chambre par exemple si vous êtes à l'hôpital et vous passez à autre chose. Là, vous prenez le temps de vous asseoir. Les étudiants, ils viennent pas avec une idée qu'ils ont des choses à faire, c'est-à-dire des actes à faire. Non, ils sont là pour respecter le temps de la personne. Si le temps, c'est de prendre un repas ensemble, eh bien, on prend le temps de le prendre ensemble. Si c'est écouter la musique, regarder la télé ensemble, voilà. Il n'y a pas d'acte. On est là pour prendre le temps de partager un moment.
C'est peut-être une respiration, tant pour l'aider que vos étudiants en plus. Enfin, c'est souvent les études de médecine, ils sont la tête dans le guidon, et ça permet aussi peut-être un petit peu à eux de souffler, au-delà de faire souffler les familles, et de faire se sentir l'aider un petit peu moins seul peut-être chez lui.
Oui, et puis remettre du sens dans ce qu'on fait, parce que souvent les études c'est aussi très théorique, et puis voir le suivi d'une pathologie aussi sur le long terme. On accompagne beaucoup de personnes qui vont avoir des troubles cognitifs tels que une maladie d'Alzheimer, maladie à corps de Lewy, maladie de Parkinson, et c'est là, et tous les types de cancers, et puis simplement grand âge aussi. Et c'est intéressant de voir, je pense, pour un étudiant en médecine ou en soins infirmiers, de voir une évolution comme ça de la pathologie et de la personne et de son entourage, bien entendu.
Alors, ce qui me semble important dans ce que vous dites, c'est que finalement, ces étudiants, ce n'est pas n'importe quel étudiant, ce sont des étudiants qui sont donc dans la santé, en médecine. Donc, on revient peut-être à parler de formation. Comment ça se passe au niveau de la formation des aidants? Est-ce que même quand c'est donc un membre de la famille, est-ce qu'on peut l'accompagner en le formant sur la pathologie sur laquelle il est confronté, il ou elle est confronté? Donc on parle, il faut rappeler quand même, je ne sais pas si on l'a bien dit, on parle de personnes âgées, mais on parle aussi d'enfants qui ont une situation de handicap. Donc effectivement, on n'est pas préparé à ça, hein, quand on est parent, à s'occuper d'un enfant qui a une situation de handicap. Cette formation, est-ce qu'elle est prise en compte par le département? Est-ce que vous aidez les aidants?
Alors oui, alors, juste avant, je voudrais souligner deux choses en fait, qui ont été dites et qui sont très justes par Séverine. La première, en fait, c'est que le coût de coordination, c'est-à-dire que pour une famille, les démarches, les coûts de transport, l'accès aux soins, c'est épuisant et ça peut être vertigineux. Moi, j'ai vu des emplois du temps d'enfants qui sont dignes de certains ministres, entre les soins, l'école, etc. Donc ça, c'est un truc hyper important. Et la deuxième chose qui a été dite de façon un peu subliminale, mais qui est extrêmement juste et qui, je pense, doit être soulignée, c'est le fait qu'il y a une réciprocité dans les danses. Souvent, quand vous allez faire un acte de solidarité, vous allez recevoir en retour. Et ce qui est expliqué là dans le parcours de formation de l'étudiant, c'est très juste. C'est-à-dire que c'est très cloisonné dans le domaine de la santé. Et un médecin n'a pas forcément conscience de la réalité d'un service d'aide à domicile et de ce qu'il fait au sein de l'habitat ou du logement d'une personne qui va avoir besoin d'aide. Et donc c'est vrai que c'est extrêmement formateur. D'habitude, quand vous faites une formation d'ingénieur, par exemple, vous commencez à être maçon-coffreur, manœuvre sur un chantier, puis vous évoluez pour devenir conducteur de travaux, etc. C'est pas forcément le cas dans les formations médicales. Donc, cette initiative que vous portez, elle a cette vertu-là aussi. Sur la question des formations, pour en revenir à votre question, oui, nous, on fait beaucoup, en fait, on fait de l'aide avec des modèles qui sont plus ou moins innovants pour aider les professionnels, notamment des services d'aide à domicile, à se former. Mais il y a une telle difficulté d'attractivité dans ces métiers, il y a tellement de ce qu'on appelle le turnover, de la rotation, c'est tellement difficile de fixer les gens sur ces métiers qu'il est difficile, en fait, d'avoir des personnels qui sont formés pour des choses, en fait, qui sont pourtant vitales. On s'occupe pas d'une personne qui a une trachéotomie de la même façon qu'une personne qui n'en a pas. Il y a des actes essentiels de la vie quotidienne, les transferts, par exemple, qui peuvent être assez délicats. Donc tout ça, oui, on essaye de l'accompagner imparfaitement, peut-être trop modestement, mais c'est une volonté. On met beaucoup d'argent aussi pour essayer que les services d'aide à domicile se modernisent aussi par rapport à ça. Mais c'est difficile quand les personnes font des passages un peu éclairs dans les services et qu'il y a un tel turnover. Donc je reviens à ce que je disais préalablement, l'attractivité des métiers, avoir des perspectives de carrière aussi qui sont insuffisantes aujourd'hui, c'est essentiel. Et ça, on a du mal à apporter des réponses aujourd'hui.
Je vous remercie, monsieur, c'est Aïcha Chapelard, journaliste indépendante, monsieur Saint-Pasteur, d'être arrivé sur ce terrain-là, parce que, en effet, il y a besoin d'attractivité, ça passe aussi par les salaires, et donc, du coup, ça me permet, si vous le permettez, de remettre un petit peu le dossier ou le sujet sur un plan économique, puisqu'on a quand même une entreprise, Ernesti, avec nous. On parle de silver economy depuis des années. L'évolution démographique de ces dernières années, les projections pour les années à venir, elles marquent l'entrée de la France dans les pays en voie de vieillissement. C'est une réalité et c'est peut-être le moment ou jamais quand même d'induire une véritable réflexion élaborée sur l'offre et la demande. On sait, moi j'ai quelques chiffres sous les yeux, c'est Libération d'il y a quelques jours. En France, 13 millions de plus de 65 ans en 2018 pour de personnes âgées et on en prévoit 16 millions en 2030. C'est un enjeu de société, c'est un enjeu de santé, on vient de le voir. Donc, oui, on a parlé de solidarité, on a parlé de ces étudiants en médecine, on salue évidemment le CARE, donc que vous avez évoqué au début, mais il y a quand même peut-être aussi des questions à se poser pour accompagner économiquement aussi, à l'échelle politique, nationale, cet état de fait, monsieur Saint-Pasteur.
Alors, je ne suis pas trop du genre à dire « c'est pas notre faute, c'est la faute de l'État », mais dans le cas d'espèce, nous, au niveau du département...
Il ne s'agit pas de faute, en fait. Est-ce qu'il n'est pas
temps de
vraiment faire une vraie réflexion élaborée autour de ça?
La question de la branche dépendance, c'est-à-dire la création d'un cinquième risque autour de ce sujet, hein, aux côtés des autres branches, maladie, accident du travail, vieillesse, famille, c'est un vrai sujet. Sauf que derrière, il y a des questions financières qui sont massives. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que si on crée en fait cette cinquième branche et un accès à un droit élargi, il va falloir trouver des recettes, des moyens pour le financer. Et déjà... ça, si vous voulez, au bout d'un moment, ça passe soit par la fiscalité, soit par... il y a aussi la question de la suppression d'un jour férié qui avait été déjà réalisé, qui peut être reposé sur la table. Mais en tout cas, il faut équilibrer. Et ça, c'est quelque chose sur lequel le politique, parfois, je le dis d'autant plus facilement que j'en suis un petit peut-être, mais j'en suis un, il manque peut-être de courage et d'honnêteté vis-à-vis de nos concitoyens. Ça coûte beaucoup d'argent, je vais vous prendre un exemple. Ce qu'on appelle une PCH 24 heures, c'est-à-dire lorsqu'une personne a besoin d'une aide humaine 24 heures sur 24, parce qu'elle n'est absolument pas autonome, qu'elle a besoin d'une surveillance 24 heures sur 24, ça coûte, en gros, pour faire simple, 15 000 euros par mois. D'accord ? Donc, lorsque vous engagez en dépenses publiques 15 000 euros par mois pour accompagner cette personne, moi, je suis fier qu'on le fasse au niveau du département. Je trouve que c'est une certaine forme de dignité. Mais derrière, il faut trouver cet argent-là. Donc, ça pose cette question-là du financement, cette question de la cinquième branche, qui est une question relativement ancienne. Et après, c'est des choix politiques qui appartiennent, c'est pour ça que je disais que c'est pas trop mon genre de dire c'est la faute à l'État, mais qui appartiennent à la représentation nationale à un moment donné, de poser ce sujet sur la table. Et là, on a des évolutions qui ont eu lieu récemment avec, j'ai plus la terminologie en tête, mais l'aide supplémentaire aux aidants qui va être adoptée. Mais on est sur des volumes, voilà exactement, qui sont sur des volumes financiers qui sont relativement marginaux, puisque si on compile, on peut monter jusqu'à 3 500 euros d'aide pour compenser une perte de salaire. Ça fait pas beaucoup par rapport à ce que ça représente en réalité d'accompagner. Une personne qui a, on a parlé de Parkinson, on a parlé d'Alzheimer, on a parlé de troubles du spectre autistique, on pourrait parler de Prader-Willi, de tout un tas de troubles et de pathologies qui demandent une mobilisation H24. Donc oui, c'est un vrai sujet politique et il faudra du courage pour l'aborder, pour non pas parler que des dépenses, mais aussi de la partie recettes et financement.
Oui, bien sûr, financière, mais vous l'avez dit vous-même, la situation, elle est particulièrement difficile, il faut les trouver, ces recettes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des coopérations peut-être nouvelles aussi à mettre en place on a beaucoup parlé de solidarité, mais et là, ma question, elle s'adresse peut-être à vous, Séverine Zakoyan, en termes de pluridisciplinarité, parce que là, vous avez des étudiants en santé, et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, tout le monde a autour de soi des personnes... même pour les enfants en situation de handicap qui peinent à trouver une orthophoniste. Enfin, il n'y a pas de centre de troubles 10, par exemple. Et peut-être que, bien sûr, il faut une réponse financière, mais au-delà et avec une volonté politique, mais aussi peut-être une réponse aussi sociale, une prise de conscience de ce qui se passe et, je ne sais pas, que chacun mette la main à la pâte.
Bien sûr, ça me fait sourire parce que vous parlez du trouble 10, je suis moi-même dyslexique, donc voilà. Et étant un parcours d'enfant dyslexique aussi, donc ça m'a fait sourire. Effectivement, alors nous on réfléchit beaucoup justement à cette ouverture à pour faire bénéficier un maximum de personnes. Pour l'instant, effectivement, nous, on travaille plus avec une population en perte d'autonomie, donc souvent, ce sont des personnes qui vont être âgées. Mmh. On ne travaille pas encore avec des personnes, des enfants handicapés, par exemple. Tout simplement parce qu'on est une jeune entreprise et donc, moi, je n'ai pas ce bagage-là. Et donc, le jour où on l'aura, on pourra ouvrir. On réfléchit aussi, par exemple, on essaye vraiment dans le fait de s'inclure dans la Silver Economy, notamment dans la, nous on est dans un réseau qui s'appelle la Silver Alliance. Le fait de s'inclure aussi, ça permet de voir aussi toutes les initiatives qui peuvent être faites et de réfléchir en bonne cohérence sur où est-ce qu'on peut faire de la réduction de coûts et comment on peut le faire. Par exemple, nous on sollicite les groupes de protection sociale parce que aujourd'hui en France on ne finance pas la prévention. On va financer de la santé, des actes médicaux ou de l'aide au quotidien, mais on ne va pas financer de la prévention. Je parle de la prévention des chutes qui coûte extrêmement cher après à l'hôpital, à la sécurité sociale, etc. Et donc nous, on essaye de faire des études avec effectivement les familles qu'on accompagne sur est-ce que le fait de mettre un étudiant au domicile, que ce soit un étudiant ou un autre service, hein, bien entendu, est-ce que ça réduit le risque de chute et donc la prise en charge plus rapide peut-être derrière. Voilà, c'est des petits coups, je pense, où ça nous paraît petit, mais je pense au final qu'en faisant cette recherche et en réfléchissant aussi sur de manière un peu plus globale, on peut arriver à faire en sorte de pouvoir faire bénéficier du coup à plus de familles et travailler peut-être en bonne intelligence à la fois avec les assurances, les mutuelles, les hôpitaux. On est des entités, souvent ce sont des entités qui communiquent pas entre eux. C'est mis en place depuis bien longtemps maintenant et malheureusement il y a peu de communication.
C'était exactement le sens de ma question et c'est vrai qu'il y a par exemple sur le sport santé quelques timidement certes mais quelques mutuelles qui commencent à entrer là-dedans. Vous parliez de prévention, est-ce que vous avez parlé de Malakoff Humanis, est-ce que vous avez d'autres partenaires qui vous accompagnent dans cette démarche-là?
Pas encore, mais on y travaille. Pas encore. Oui, c'est un travail qui est assez long parce qu'on parle à des gros groupes qui ont une structure, une hiérarchie, etc. Donc, ça prend du temps, tout ça. Mais je pense qu'il faut le mener et le mener dès maintenant pour faire changer certaines choses. Ouais.
Si vous m'autorisez pour aller dans votre sens, alors, on ne fait pas totalement rien sur la prévention parce qu'il y a quand même des initiatives qui sont prises.
Nous, oui, bien entendu, oui, oui.
Non, mais c'est pas forcément connu, donc mais globalement, on fait très peu, hein, je le concède aisément. On finance à travers ce qu'on appelle la conférence des financeurs pour à peu près un peu moins de 4 millions d'euros sur la prévention de la perte d'autonomie, mais c'est vrai que le concept de coût évité, c'est-à-dire en fait l'argent qui va être investi pour éviter que adviennent des difficultés, le sport santé est un superbe exemple, vous faites très bien de le mettre en exergue, est insuffisamment réfléchi, insuffisamment étudié. Mmh. Et c'est vrai que cette question du sport santé, moi j'ai quelques exemples, on a financé à travers les associations sportives, je pense à un club qui s'appelle Athlé Santé à Gradignan, sur de la marche nordique, sur des choses qui sont relativement préconisées sur la perte de pour prévenir la perte d'autonomie, mais on fait assez peu et on n'arrive pas à trouver de modèle économique derrière. Parce que justement, cette question de coût évité, si on investit 1 euro là aujourd'hui, est-ce que ça va pas nous éviter d'en dépenser 10 demain? Elle est très peu appréhendée, elle est difficilement modélisable. Et ça, c'est une vraie faiblesse aussi dans notre réflexion. On est beaucoup dans le curatif et trop peu dans le préventif. Et là, je vous rejoins sur ce qui a été dit.
Sur la marche nordique, alors vous parlez à un athlète, enfin un licencié de club d'athlétisme girondin.
Vous êtes un peu jeune pour penser à la prévention.
Et justement, mon club avait formé deux jeunes entraîneurs à la marche nordique et ça avait été donc les jeunes ont avancé le financement de la formation, le club a remboursé et la mairie a dit attendez, plutôt que ce soit le club qui paye, essayez de vous rapprocher de l'hôpital de la ville et vous voyez si vous pouvez pas faire quelque chose. Et nous, à ce moment-là, on pourra entrer à hauteur de N% de ce que vous aura coûté la formation, pour pouvoir déjà permettre à vos jeunes de collaborer avec l'hôpital et en plus permettre à des malades de commencer à se soigner ou de se remettre à une activité physique. Donc c'est vrai que la marche nordique est un exemple, il y en a plein d'autres. dans les sports. Et justement, le sport santé, c'est notamment au sein du comité départemental olympique et sportif, il a énormément d'importance.
Oui, puis même au sein des entreprises, on a quelques exemples d'entreprises qui essaient d'aller dans cette démarche-là. Mais c'est vrai qu'il y a, voilà, ça en est encore assez balbutiement, on a l'impression. Qu'en pensez-vous ?
On n'a pas de démarche structurelle massive. On est sur des bonnes pratiques, des beaux exemples, des initiatives comme celle que vous venez d'exposer avec vos amis, la mairie qui appelle l'hôpital, etc. Mais c'est trop basé sur des bonnes volontés. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'approche systémique. Et c'est là où, en fait, on devrait avoir justement une valorisation de cet investissement qui est fait pour prévenir justement les difficultés futures. Et ça, c'est pas fait, c'est pas réfléchi, c'est très peu modélisé. Et je pense que ça pourrait faire l'objet de recherches un petit peu plus développées, parce que ça éclairerait aussi les décideurs publics et ça les légitimerait pour aller un petit peu plus loin. Nous, au département, alors on a des contraintes financières, on a essayé, je vous ai pris cet exemple sur Gradignan, voilà, mais il y en a quelques autres, mais on est insuffisamment présent. Moi, je le concède assez facilement. Il faudrait qu'on développe beaucoup plus et avec aussi une logique de combien on a eu en termes de retour sur investissement pour justement justifier que cet argent-là qui a été investi, il était utile et il a permis justement d'économiser ailleurs.
Très bien. Ça me fait bizarre de parler d'argent, de finir cette émission sur les modèles économiques.
Désolé.
Voilà. Mais non, mais c'est. En tout cas, on a été utile. Nos auditeurs, nos interviewés, ont été utiles à nos auditeurs puisqu'on a quand même des informations. Où est-ce qu'on peut, quand on est aidant, où est-ce qu'on peut aller trouver de l'information justement pour se faire accompagner, peut-être auprès de vous, Ernestie. Vous avez, j'imagine, un site internet. Puis ensuite, Monsieur Saint-Pasteur. Comment est-ce qu'on peut avoir des informations là-dessus ? Séverine Zakoyan.
Alors, Ernestie, donc pour nous contacter, vous pouvez aller sur le site internet ernestie.fr. C'est comme le prénom Ernest avec un I. Et après, pour rechercher de l'information, alors moi, je donne souvent, je dis aux familles, la mairie, parce que la mairie y renseigne quand même pas mal de choses. Les centres locaux d'information et de coordination, les CLIC. Alors maintenant, CLIC et Maya, ça a fusionné, donc les CLIC. Voilà. Et après, je laisse la main plutôt.
Oui, monsieur Saint-Pasteur, donc si on a besoin d'aide et qu'on est un aidant.
Alors, sur le site du département, vous allez trouver pas mal d'informations. Donc, les CLIC, en effet, qui sont aussi de compétences départementales, c'est aussi des lieux de proximité. Vous avez la carte sur le site du département. On a aussi une plateforme d'appel téléphonique qui enregistre beaucoup d'appels. Je n'ai pas le numéro en tête, mais je vais vous le trouver assez vite pour que je puisse le communiquer. Et en gros, c'est vrai que les mairies, les CCAS, les maisons départementales de l'insertion, les CLIC, il y a tout un tas d'acteurs qui sont mobilisables pour que, en fait, on puisse vous aiguiller un petit peu, parce que souvent, lorsque vous êtes en situation d'avoir un diagnostic Parkinson ou un enfant qui a été diagnostiqué trouble du spectre autistique, c'est un monde nouveau qui s'ouvre à vous. Et avec on a parlé de Maya, on a parlé de CLIC, on pourrait parler de PTA, on pourrait parler de MDPH, il y a plein de cycles, c'est assez barbare. Et quand vous n'êtes pas du tout de la partie, vous vous retrouvez face à un monde nouveau, vous avez l'impression de parler une langue étrangère. Donc il faut se faire accompagner, il ne faut pas avoir peur de faire ce geste-là, de demander de l'aide vis-à-vis de professionnels qui sont mieux outillés pour, en gros, vous éclairer le chemin. Merci. Et je n'ai pas retrouvé le numéro de téléphone pendant ce temps-là.
Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions, Séverine Zakoyan et Sébastien Saint-Pasteur. Et j'en profite pour ajouter à la question d'Aïcha sur l'information pour les aidants. Je les ai évoqués en début d'émission. Il y a les cafés des aidants. Il y en a 4 sur la métropole. C'est Gradignan, Villeneuve-d'Ornon, Mérignac et Saint-Loubès, qui relèvent tous d'organismes tiers. Merci beaucoup à tous les deux. Puis je vous souhaite une bonne soirée.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci. Donc c'est la fin de cette émission. On va se quitter en musique, je crois. Johan, c'est vous qui l'avez choisi. Avant, juste vous rappeler que cette émission sera rediffusée sur le 91.3 le lundi 12 octobre à partir de 16h et le mercredi 14 octobre à partir de 9h. Bien sûr, vous pouvez la retrouver sur notre site internet www.audioradio.fr en podcastable. Vous allez sur l'onglet émission jeudi, questions d'actualité. Merci à vous tous et toutes. Coraline, bien sûr, de l'Écho des Collines, Aïcha Chapler, journaliste indépendante, et Johan pour acquis.fr, Johan Ténéchaud. Je suis très heureuse de vous retrouver demain, moi, pour les brèves d'infos pour notre journal de Joël Gutmann à midi. Je vous souhaite un très bon moment à l'écoute de radio. Et Johan, je te laisse juste annoncer la musique pour cette thématique.
Daniel Guichard et que c'est Mon Vieux, c'est ça.
Voilà, on va écouter Mon Vieux. Allez, très bonne écoute sur Eau de Radio.
Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux. Il n'y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux, l'été on allait voir la mer, tu vois c'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis, et ouais tant pis. Son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue. Mon vieux, le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot, il était du genre silencieux. Mon vieux, les dimanches étaient monotones, on ne recevait jamais. Ça ne me rendait pas malheureux. Je crois, mon vieux, dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu. Mon vieux, nous, on connaissait la chanson. Passait bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon vieux, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé, c'est dehors que j'allais chercher, pendant quelques heures, l'évasion. Je sais, c'est con. Dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder, on a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin, ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur à c'est grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa.